Ensuite, il nous reste du temps, je reviendrai sur le texte du Zohar dont je vous ai parlé hier et qu'on n'a pas pu voir à cause des parenthèses. Bon, alors je vais résumer, comme au début du cours d'hier, les données principales de ce problème. Vous vous rappelez du schéma général de l'ensemble des rivalités autour d'Israël, telles qu'elles commencent, dès l'apparition d'Abraham. Est-ce qu'il ne manque pas quelqu'un par là-bas? Tout le monde est là? Même les autres? Oui. Et, alors il va manquer quelqu'un par ici. Non? Oui, je sais où il est. Asdom. Vous allez faire un petit tour chez l'autre. Bon. Alors prenez le chapitre. Oui, je vous rappelle les données principales. C'est que dans la première partie de l'histoire d'Abraham, il y a la naissance d'Ishmaël, qui a ses bénédictions propres, et s'instaure une première rivalité vis-à-vis de ce que sera la descendance d'Abraham qui mènera l'identité d'Israël. C'est bien clair? Cette rivalité, on va la schématiser par rapport au récit biblique d'abord. Essentiellement, cette rivalité porte sur la terre qui est promise en héritage à Abraham. Vous vous rappelez de cela, ça vaut la peine de revoir les versets. D'autre part, vous avez à étudier, d'autre part, dans l'histoire générale de la relation du peuple juif avec les pays de la civilisation d'Ishmaël, c'est-à-dire les pays d'Islam, c'est une histoire extrêmement vaste, extrêmement nuancée, extrêmement riche, l'histoire non seulement des communautés des pays d'Islam, que ce soit les communautés Sfarad dans leur temps ou les communautés des Aedot Amizrach, comme on dit aujourd'hui. Aedot Amizrach, vous savez ce que c'est? Okay? Tout le monde, c'est clair? Bon. Mais en particulier, une étude importante serait l'étude de ce que dit les constitutions des pays, la constitution légale des pays d'Islam par rapport à la minorité juive, corollairement à la minorité chrétienne, le cas échéant. Et c'est une histoire que vous devez apprendre d'autre part. Finalement, de notre temps, le conflit principal ressurgit, c'est la rivalité au sujet de la terre, et je crois que c'est le conflit politique actuel. Bien. Alors, je repars du postulat que j'ai mis en évidence hier. Si nous admettons le postulat que le peuple juif contemporain, et en particulier la société israélienne contemporaine, c'est l'Israël dont parle la Bible, alors les autres personnages qui entourent le personnage Israël dans la Bible sont aussi ceux qui nous entourent. Je veux dire, si Israël est Israël, Ishmaël est Ishmaël, Esav est Esav. C'est clair comme postulat, j'ai bien compris. Donc. Alors, ceci dit, nous allons faire une sorte de voyage dans le futur, à travers le texte de la Torah, dans ce chapitre 25. Et, je ne sais pas comment on appelle ça très exactement, de la prospection futuriste, M. Oukazé. Vous voyez ce que je veux dire. Et on va suivre le récit de l'achèvement de l'histoire d'Abraham et de la réconciliation d'Ishmaël et de Yitzhak à ce moment-là. Alors chacun, suivant sa sensibilité propre à ce genre de diagnostic, de préfiguration, pourra percevoir de façon plus ou moins immédiate, plus ou moins proche ou lointaine, ce qui est en train de se mettre en place dans l'histoire par rapport à ce sujet que nous avons étudié, et puis on le verra un peu plus en détail dans la suite. Alors prenez votre texte au chapitre 25 et rappelez-moi les versets que je vous avais demandé d'étudier en détail avec Rachi. Parlez plus fort. Non. Alors, on va prendre le chapitre 25 depuis le début. Vous y êtes ? Rapidement. Dans les textes précédents, on a appris que Ishmaël, dès qu'il constitue son identité, installe tout de suite sa propre société. On m'a posé une question à la fin du cours, je crois que c'est toi. Et vous retrouvez vous-même ce verset, et on le retrouvera chez Ésaü. C'est-à-dire, dès que, dans l'ordonnance du récit, dès qu'Ishmaël apparaît dans l'histoire, son identité est achevée pour elle-même, et on nous dit tout de suite qu'il a eu 12 enfants qui ont fondé les 12 tribus de la nation d'Ishmaël. Vous rappelez cela, les 12 princes, okay? Tout de suite. De la même manière pour Ésaü plus tard, dès qu'Ésaü constitue son identité, il fonde sa propre société, et il y a aussi 12 princes de la nation d'Ésaü. Alors qu'en ce qui concerne Jacob qui deviendra Israël, ça va être difficile, ça prendra du temps. Et nous retrouvons ici un thème analogue à ce que nous avons vu à propos de la naissance des enfants dans la famille des patriarches à chaque étape. L'engendrement est retardé jusqu'à ce qu'il soit ce qu'il doit être. Vous vous rappelez de cela ? C'est clair pour tout le monde ? Alors, nous avons ici un thème analogue, parallèle, que, je répète, l'identité Ishmaël se constitue et elle va développer son histoire, si j'ose dire, sans qu'il n'y ait plus de dimension de Toladot. C'est-à-dire, c'est arrivé, cette manière d'être homme qui va s'appeler Ishmaël est constituée dans son identité, ça ne va pas changer. Ça va se fonder en une société qui deviendra finalement un empire, donc l'empire de l'islam, et d'une certaine manière, il n'y a pas de dimension historique telle que cela intéresse le sujet des toladot, des engendrements dans le récit biblique. Je ne sais pas comment vous expliquer ça mieux, mais est-ce que c'est clair, Ken ? Je ne veux pas dire que chez les goïms, il n'y a pas d'histoire. Il y a une histoire, mais c'est une histoire naturelle, c'est-à-dire le développement des potentialités. Et puis c'est toujours la même chose qui recommence dans un style qui change tout en restant le même. Je sais pas comment. Il y a un vers dans la littérature française, tel que l'éternité. En lui-même. Hein ? En lui-même. C'est de qui ça ? Racine ? Peut-être. Il faudrait aller à la racine des choses pour savoir. Bon. De la même manière pour Ésaü. Alors que quand vous allez aborder les textes suivants concernant l'engendrement des enfants de Jacob, l'établissement des 12 tribus qui sont 13 pour la société d'Israël issue de Jacob, là, ça va être difficile. Alors retenez bien cette différence. Ishmaël constitue son identité, elle est donnée immédiatement, c'est fini. Et puis après, ça se développe dans le temps de l'histoire. Mais il n'y a pas d'histoire des toladot à proprement parler. Vous suivez ? De la même manière pour Ésaü. C'est déjà achevé. On l'étudiera plus en détail avec Ésaü parce que son nom même a été interprété par le Midrash dans cette notion-là, une identité achevée qui a atteint sa perfection propre d'emblée. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite, mais je dis sa perfection propre d'emblée. Et c'est pourquoi à ce type de civilisation, à ce type de culture, plus exactement, ou de profil de manière d'être homme, s'attache une angoisse d'existence qu'on ne trouve pas dans l'identité juive, dans le profil de l'identité juive. Comme si, a priori, il n'y a pas d'avenir, c'est déjà passé dans le passé. Bon, je parle par approximation pour ne pas être trop précis parce que ça me prendrait trop de temps, mais je pense que vous comprenez l'idée générale. Okay ? C'est clair ce que je dis là ? C'est-à-dire, on va prendre un exemple immédiat. Il n'y a pas de perplexité pour savoir qu'est-ce que c'est qu'être français. On peut explorer ça de façon statique, par une prise de connaissance immédiate, qu'est-ce que c'est que l'être français. Corollairement, il n'y a pas de perspective d'avenir. Il n'y a pas de toladot. C'est déjà une manière d'être qui déploie ses potentialités, mais elles sont déjà contenues a priori, elles sont données a priori, c'est fini, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est clair jusque-là ? Alors je vais vous montrer en tout cas dans le texte, vous allez prendre un peu plus loin. Prenez le verset 12 du chapitre 25. Dès le premier mot, vous allez être frappé par une particularité du texte et vous allez me rappeler si je vous ai déjà parlé de cela. Voilà. Ve'ele toldot Ishmael ben Abraham. Et voici les engendrements d'Ishmael, fils d'Abraham. La question qui doit s'imposer à vous tout de suite, c'est... Voilà, exactement. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah va ici parler d'Ishmael comme fils d'Abraham ? Ça, on va voir tout à l'heure. Okay ? Et, tout simplement... La réponse de l'exégèse facile, immédiate, c'est que, entre-temps, Abraham a été appelé Abraham. Par conséquent, à partir de là, le texte l'appelle Abraham. Mais nous avons vu un verset précédent, au moment de la disqualification d'Ishmaël par Sarah, le problème du rire. Vous vous rappelez ? Nous avons vu que là-bas, le texte l'appelle Ishmaël, fils de Hagar l'Égyptienne, que Hagar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Et là-bas, il y a aussi Abraham, parce qu'entre-temps, Abraham était appelé Abraham. C'est la réponse classique. Mais nous verrons qu'il y a autre chose ici, de plus. Mais regardez le mot Toldot, comment il est écrit. Sans vav, très bien. Attends, ça on va y arriver. Oui, j'y reviens. Ça, c'est au début de notre chapitre. Ketouvah, on y revient. Alors, je vous avais dit peut-être au début de l'année que le mot de Toldot, dans le sens de les engendrements, et il faudrait faire effort pour bien comprendre qu'il ne s'agit pas simplement du fait que, dans une notion d'état civil général, un tel est fils d'un tel, mais c'est par copie conforme, ou copie plus ou moins conforme, c'est que de génération en génération, dans la lignée des Toldot, se passe une mutation d'identité qui nous fait passer de Adam Rishon jusqu'au Ben Adam. Il se passe quelque chose et l'identité se modifie pour s'approcher de plus en plus du projet du Créateur pour l'homme. Ça, c'est le sens de Toldot. C'est clair ? Or, vous allez noter la règle, je ne sais pas, je vous l'ai donné une fois, il me semble. Dans tout le Tanakh, ce mot de Toldot est employé 13 fois. Vous vous rappelez de cela ? La première fois, c'est le premier verset qui se trouve au verset 4 du chapitre 2 de Bereshit. Ve'ele toldot ha-shamayim va'aretz berib baream. Le moment des toldot de Adam Arishon. C'est employé avec les deux vav du mot toldot. On appelle ça, vous vous rappelez en bibliographie, le moé est dit comment en hébreu ?
C'est la même
en fait. C'est ce qui se dit en hébreu ?
Shalem.
J'entends pas. Qu'est-ce que tu dis ?
Hein ?
Shalem. Shalem, non. C'est pas comme ça que vous avez appris.
Malé.
Malé, très bien. Malé, ça veut dire plein. Vous voyez le mot de Toldot, quand il est écrit malé, il y a les deux vins. Alors la première fois, il est écrit malé. Ensuite, il est toujours écrit hasser. Malé, ça veut dire plein de ces lettres. Hasser, défectif, il manque une lettre. Vous vous rappelez de cela ? Hasser. Alors soit c'est ce vav qui manque, soit c'est ce vav qui manque. Il y a un cas particulier, c'est les Toldot d'Ishmaël, où il manque les deux vins. Vous voyez, vous y êtes dans notre verset à lui. On l'appelle Hasser de Hasser. Ça veut dire que parmi toutes les lignées humaines issues de ces Toldot de Adam Arishon, jusqu'au temps messianique où, de nouveau, c'est malé, le mot de Toldot est plein de lui-même, ça vous le trouvez dans le livre de Ruth. Vous allez me donner un tanar, je vais vous donner la référence qui annonce la naissance de David. Alors là, de nouveau, le mot de Toldot est écrit avec toutes ces lettres. Donc vous avez 13 fois, une fois au début de Bereshit, Malé, 11 fois Hasser, et la 13e fois, Malé. Mais parmi ces 11 fois où c'est Hasser, Hasser de Hasser, ça veut dire vide complètement, c'est les Toldot d'Ishmaël. Ça veut dire qu'il y a une identité qui s'est rejointe et puis elle n'a plus d'histoire en fait. Ce qui est très frappant, c'est que ça correspond au sentiment de l'histoire que l'islam a de lui-même. Il n'y a pas d'histoire. C'est-à-dire, si vous explorez la doctrine de l'histoire, la doctrine de l'islam sur l'histoire, il y a ce sentiment qu'il n'y a pas d'histoire. Vous avez compris ce que je veux dire ? Ça correspond. Bon, ça c'est en face. Alors nous revenons au début du chapitre 25. Alors, après avoir engendré Yitzhak de Sarah, après que la Torah nous a raconté comment les engendrements continuent après Abraham à travers Yitzhak, parce que Yitzhak a pu rencontrer Rivka, vous avez lu tous ces textes, okay ? La difficulté de trouver une femme pour Yitzhak. Finalement, elle existe, ils se rencontrent, donc les Toldot vont pouvoir continuer. À ce moment-là, la Torah ouvre une parenthèse pour nous dire ce qu'il en arrive de la fin du cycle des engendrements d'Abraham à proprement parler. Alors, Vayosef Abraham, et Abraham ajouta, Vayosef, une fois de plus, Vayikar Isha, et il prit une femme, Ushma Ketura, et son nom était Ketura. Alors, il y a deux enseignements dans le Midrash. Soit que ça veut dire, premier Midrash, qu'il s'agit de Hagar, mais entre-temps, elle s'est hébraïsée et est devenue la femme d'Abraham et a été appelée Ketura. Ktura, c'est un terme qui se rattache à la liturgie des sacrifices d'expiation, Ktoret. Et le deuxième midrash dit qu'il s'agit d'une toute autre femme, et d'ailleurs, elle était éthiopienne, comme par hasard. Et je ne sais pas si j'ai pensé à vous dire hier, c'est que depuis déjà des centaines d'années, on avait diagnostiqué que les Juifs d'Éthiopie étaient de la tribu de Dan. Rappelez-vous de ça. Bon, c'est de notre temps qui reviennent. Alors, Vayosef Avraham, Vayikar Isha, Ushma Ketura. Donc vous avez deux enseignements dans le Midrash, soit qu'il s'agit de Hagar, mais elle a quitté son identité égyptienne et elle a rejoint Abraham après la naissance d'Isaac. Et alors, un certain nombre de peuples vont être engendrés à partir d'Abraham, qui vont aussi entourer Israël et avoir une relation avec l'histoire d'Israël, en particulier l'un d'entre eux qui joue un très grand rôle dans l'histoire d'Israël à l'origine, et qui est le peuple de Midian. D'ailleurs, quand vous aurez à préparer les textes que je vous ai donnés à préparer pour mercredi, vous allez retrouver la rencontre entre Moïse et Midian. Vous avez déjà lu ce texte ? Pas encore ? Bon, prenez le temps de le faire. Je vous ai donné les références hier. Bon. Alors, mais ces peuples ne sont pas comptés parmi les toladot, les engendrements, dans le sens messianique de cet effort d'engendrement qui est le fil conducteur du récit à travers l'histoire des patriarches. Mais j'aurai l'occasion de vous parler en particulier de Midian, mais il y a quelque chose d'analogue chez ces autres peuples, je crois qu'ils sont une quinzaine. Donc, Abraham a engendré d'abord Ishmaël, qui est la rivalité d'Itsrak, ensuite Itsrak, et après, il engendre un certain nombre d'autres peuples qui vont avoir, d'une certaine manière, l'héritage des valeurs d'Abraham. Alors, je vais vous les lire. « Vateledlou, elle lui enfanta Zimran, Yokshan, Medan, Vet Midian. » Medan et Midian sont deux peuplades différentes. « Vet Ishbak, Vet Shuach. » Ve Yokshan Yalad et Sheva, Vet Dedan, Ubde Dedan, Ayu, Ashurim, Ultushim, Uluumim. Bon, tout ça, c'est des noms de peuplades. Ubne Midian, Efa va Efer Rahanor, Rabidar Veldaam, Kolele Benektur. C'est-à-dire, dans la Kabbalah, on étudie la signification de ce diagnostic prophétique, de savoir comprendre chaque manière d'être homme à travers le nom que la Bible lui a donné. Donc, vous avez là toute une phénoménologie. Des manières d'être homme, comme je dis souvent, qui est extrêmement fouillé dans l'étude de la Kabbalah, mais le Midrash, lui, va récapituler tout ça en disant ce sont des peuples qui vont servir, c'est moi, le vocabulaire est le mien, maintenant, j'interprète un peu pour que ça aille un peu plus vite, qui vont servir un peu de pont, de relais entre l'identité abrahamique dans la descendance d'Abraham et d'autre part, les autres nations. C'est-à-dire des peuples qui peuvent être d'un côté ouverts à la parole de la prophétie hébraïque, mais de l'autre côté, insérés chez les nations. Des peuples relais et qui permettent cette relation. Bon. Il arrive que certains d'entre eux s'érigent en rivalité ponctuelle, partielle, transitoire, par exemple Midian, et ça nous l'étudierons dans l'histoire de Moïse. Et ensuite, « Vaïten Abraham et kol asher lo leitzrak » et Abraham a donné tout ce qui lui appartenait à Yitzhak. Donc ce verset est important. Tout l'héritage d'Abraham passe par Yitzhak, Velibne à Pilakshim, et au fils des concubines, mais les concubines, c'est Keturah, Asher et Abraham, que possédait Abraham, Nathan Abraham, Matanot. Il leur a fait des cadeaux. Baishalechem, mais à Yitzhak, il les a renvoyés de devant Yitzhak, Beno, son fils, Berodenu Chai, alors qu'il était encore vivant, Abraham, Kedma, en direction de l'Orient, El Eretz Kedem, vers le pays de l'Orient. Voilà, c'est là qu'on va commencer à étudier notre sujet. Nous allons assister au récit de la fin de l'histoire d'Abraham, selon la Torah, et là, Ishmaël est mêlé à ce récit, et c'est là que le Midrash va mettre en évidence l'issue de la contestation entre Ishmaël et Yitzhak. On n'en est pas là dans l'histoire, mais je tiens à ce que vous lisiez cette histoire jusqu'au bout. Alors on revient. Et voici les jours des années de vie d'Abraham, Asher Chai, qu'il vécut. Tout ça, ça s'étudie, sans y avoir de répétition, c'est pas pour rien, mais j'avance. 175 ans. Ensuite, verset 8. Vaïgvar, Vayamot. Et là, vous avez deux mots qui signifient mourir, mais qui ne sont pas synonymes. Vaïgvar, regardez bien le texte. Vaïgvar, ça veut dire il expira. Vayamot, il mourut. Bon, ça ne nous avance pas plus. Ça reste encore presque comme des synonymes. Alors, je vais vous définir, d'après l'explication du Midrash, on dit « Vaigva » pour quelqu'un qui a vécu tout le temps de vie qu'il avait à vivre. Ça veut dire que la vie qui faisait vivre son corps s'est achevée. « Vaigva ». Alors, le seul terme approximatif qu'on a pu trouver en français pour exprimer cela, c'est « il expira », le dernier souffle. Mais c'est une mort, une véritable mort naturelle, mais dans le sens le plus absolu. Admettons par postulat que chacun a tant de temps à vivre, s'il n'y a pas de catastrophe entre-temps, il vit tout ce temps-là, pas moins, pas plus. Alors, on va le voir tout à l'heure avec Rashi, immédiatement même, c'est lorsqu'il s'agit d'un tzaddik absolu, alors on sait que le signe est qu'il a vécu tout le temps de vie qu'il avait à vivre. On emploie ce terme de vaigva pour les tzaddikim, nous dit Rashi. La question qui va se poser à nous, c'est que Rashi ne cite pas cela, cette explication-là, qu'on dit Vaïkvar pour les tzadikim, à propos du verset d'Abraham, et c'est ce qu'il aurait dû faire apparemment, puisque l'habitude de Rashi, c'est d'expliquer un mot nouveau la première fois qu'il apparaît dans le texte, avec un sens particulier. Or, Rashi va attendre le verset 17 de ce même chapitre, où le mot de Vaïkvar est employé pour la mort d'Ishmaël, pour nous dire, prenez Rashi sur le verset 17, Vaïva, l'onemra gvia, on emploie le terme de gvia, expiration, et là, betzadikim, que pour les tzadikim. Alors, deux étonnements. Premier étonnement, un étonnement, disons, technique, de méthode. Pourquoi Rashi a attendu Ishmaël pour nous dire que gvia, c'est pour des tzadikim? Deuxième étonnement qui éclate, qu'est-ce que ça veut dire qu'Ishmaël est un tzadik? Vous avez suivi? Qu'est-ce que j'ai dit, Israël? Ishmaël, que? Je reprends. Oui, tu regardes bien le texte. C'est ça l'étonnement. Premier étonnement, pourquoi Rashi a attendu le verset d'Ishmaël pour nous dire qu'on ne dit que via que pour un tzadik alors qu'il aurait dû le dire d'abord pour Abraham? C'est clair? Deuxième étonnement, plus fort encore, qu'est-ce que ça veut dire qu'Ishmaël est tzadik? Vous suivez? Bon, alors on revient au récit. Vous avez compris le problème? Bon, déjà on devine qu'à la fin de sa vie, Ishmaël devient tzadik. Mais dans quelles circonstances? C'est cela qu'il faut étudier. Attendez, avant qu'on reprenne le récit, je veux que vous voyez dans Rashi ce que je viens de citer. Alors prenez le verset 17, Yudzel en hébreu, Rashi en bas de la page, et quelqu'un va me lire ce Rashi pour que je vérifie que vous l'avez sous les yeux. Tu veux lire? Alors Rashi. Lili, avance. Où tu es? Verset 17. Vele shene chaye Ishmael. Continue.
Achare le chaye bat echad.
Ma? Où tu es? Attends, où tu es? Hein? Tu es au verset 17? Chapitre 25? Tu es sûr? Non, pas dans Rashi, dans le verset d'abord. Donnez-moi votre livre que je vous montre.
Ishmael.
Voilà. Alors très bien, à partir de là, Vaïva, il expira. Vaïamot, il mourut. Vaïasef l'Amav. Elle. Ama, et il fut ajouté à son peuple. C'est une expression que j'expliquerai tout à l'heure pour dire qu'il a rejoint ses ancêtres là où il se trouve après la vie terrestre. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors apparemment, vous avez trois termes. Alors Rashi, sur ce verset, Vaïva, vous l'avez, avant-dernière ligne de la première colonne de Rashi. L'onemra. Tu suis? Lis. Ah, tu n'as pas le même livre, oui. Cherche, à la fin de l'explication de Rashi sur le verset. Tout à l'heure, tu as vu le début. À la fin. Sur le mot de Vaïva.
Verset
Ah, c'est pour ça que oui. Alors, l'onemra Gevia. Voilà, traduit. Non. L'onemra n'a été dite, n'a été dite. La notion de Gevia, on a dit Gevia que la tzadiki pour des tzadiki. Bon, alors vous voyez quel est notre sujet. On revient au récit. Alors vous êtes au chapitre 8. Slicha, au verset 8 du chapitre 25. On nous décrit la mort d'Abraham. Vaïgva, il expira. Vaïamot, il mourut. Abraham, Abraham, beseva tova, en bonne vieillesse. Seva, c'est la vieillesse. Zaken, vieux, vieux. Besavea, rassasié. Ça veut dire rassasié de jour. Rassasié de temps de vie, va y à Sefer Amav et il rejoint son peuple. Je vous ouvre ici une petite parenthèse, et le Ramchal en particulier, c'est un très grand maître des siècles derniers qui vivait en Italie, c'est Rabbi Chaim Moshe Lusato, qui a enseigné sur cette expression que c'est un des endroits où la Torah fait allusion à ce qui se passe après la mort. En tout cas, c'est relié au Tzadikim. Il a réussi sa vie, il a rejoint le monde des Nechamot, où sont ses ancêtres. C'est une allusion comme ça en passant, je referme la parenthèse. Maintenant, la question importante que le Midrash va se poser, c'est, étant donné notre problème, cette querelle entre Ishmaël et Yitzhak qui a occupé toute la vie d'Abraham depuis qu'ils sont nés, et qui l'a tellement préoccupé. Vous vous rappelez du texte, lorsque Sarah intervient, Abraham n'est pas content, et puis Abraham protège Ishmaël, rivalité, etc. Comment le texte peut dire qu'il est mort en bonne vieillesse? Ça signifie donc qu'Ishmaël et Yitzhak se sont réconciliés de la vie même, du temps même de la vie d'Abraham. Vous avez suivi le raisonnement? Et maintenant, on va le voir dans le texte. Alors, retenez bien l'expression, parce qu'elle va être utilisée par Rashi. Vaïkva vayamot Abraham, beseva tova, en bonne vieillesse. On continue. Verset 9. Vaïkveru oto, et l'enterrèrent. Yitzhak et Ishmael banav. Yitzhak et Ishmael banav. C'est-à-dire Yitzhak et Ishmael, ses fils. Le Midrash va nous apprendre que Ishmael se trouvait en Égypte. Dans le récit précédent, on a vu que Agar avait donné une femme égyptienne à Ishmael. Okay? Alors, cela signifie donc que, apprenant la mort d'Abraham, qui se passe à Hébron, comme on va nous le signaler, Ishmael est revenu d'Égypte. Suivez bien, Ishmaël est revenu d'Égypte chez Yitzhak. Il y a donc une première indication qu'il se passe une rencontre. Je continue. El Meharat la Marpella, ils l'enterrèrent, Yitzhak et Ishmaël, ses fils, à la caverne de Marpella, El Sede Ephron ben Sohar, au champ de Ephron ben Sohar, à Chiti le Chitéen, à Cher Alpene Mamré, qui se trouve près de Mamré. À Sade, à Cher Kana Abraham et Benechet, le champ que Abraham avait acquis de la main des fils de Chet, des Hittites, Shama, là-bas, Kouvar, a été enterré, Abraham, Bessara, Ishto, Abraham et Sarah, sa femme. Donc, alors on revient au verset 9, et vous allez suivre avec moi ce que dit Rashi. Yitzhak et Ishmael, et l'enterrèrent Isaac et Ishmael, ses fils. Rashi cite le Midrash Rabba qui dit ceci. Mais ça se trouve aussi dans la Gemara d'ailleurs. Vous y êtes, Rashi, sur le verset 9. Il y a une ligne que vous allez suivre avec moi. Mikan, chez Asa, Ishmael, Teshuvah. De là, on apprend, Mikan, chez Asa, Ishmael, Teshuvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Ishmael a fait Teshuvah, s'est repenti. Veolich et Yitzhak lefanav. Et a fait marcher Yitzhak devant lui, a mis Yitzhak devant lui, parce que le verset s'exprime de cette manière, et l'enterrèrent Yitzhak et Ishmaël, ses fils. Ça veut dire que Ishmaël a reconnu la pré-séance, comme on dit, oui, de Yitzhak. Je reprends les éléments du récit. Ishmaël revient à Hebron, où habitait Yitzhak, au moment de l'enterrement d'Abraham, et donc reconnaît que c'est Yitzhak qui est chez lui à Hebron. Alors le Midrash met cela en évidence en disant, de là on apprend qu'Ishmaël a fait Tshuva en reconnaissant la préséance de Yitzhak, Vehi Seva Tova Sheneemra Be'Abraham. Et c'est cela la bonne vieillesse qui a été dite à propos d'Abraham. Donc voilà comment le verset 9 explique la difficulté apparente du verset 8. C'est-à-dire la difficulté apparente, c'était que on parle d'une bonne vieillesse d'Abraham. Comment peut-il avoir une bonne vieillesse alors qu'il y a une querelle aussi grave entre Ishmaël et Yitzhak? C'est donc entre-temps, Yitzhak a fait tshuva. Ishmaël a fait tshuva. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Ishmaël a fait tshuva? Qu'il reconnaît qu'Yitzhak est chez lui à Hebron, c'est-à-dire qu'il reconnaît l'héritage de la terre. Et comment cela se dévoile? C'est le fait que Ishmaël revient d'Égypte à Hebron pour l'enterrement d'Abraham. Alors, à partir de là, on comprend qu'est-ce que cela veut dire que Ishmaël est appelé fils d'Abraham et que le texte va comporter pour lui le mot de Vaïkva, il expira, et c'est pourquoi Rashi, à propos d'Ishmaël, va mettre l'accent sur le fait qu'on ne dit Gvia que pour un tzadik. Ça signifie donc qu'à la fin de cette histoire, il y a une réconciliation qui se fait à Hebron. Voilà ce qu'on apprend du texte. C'est clair ? Bon, alors on n'en est pas là, puisque c'est... Mais, semble-t-il, tout est mis en place, puisque la première ville du temps des patriarches, où il y a déjà et une ville arabe et une ville juive, c'est à Hebron. Ça a été mis en place il y a déjà une quinzaine d'années, et puis voilà, les choses se sont mises en place. Donc le jour où vous entendrez dire qu'à Kiryat Arba et à Hebron ont fait des messibot en commun, c'est que Ishmaël et Yitzhak, ça commence à aller mieux. Voilà donc la vie. Alors ce que je mets en évidence, c'est très simple. C'est que nous verrons qu'il y a une issue radicalement différente entre, d'une part, le problème de la rivalité Ishmaël-Yitzhak. Ishmaël se réconcilie avec Yitzhak, le signe étant ce qui se passe à Hebron au moment du récit. Alors que lorsque nous étudierons la rivalité Ésaü-Jacob, nous verrons qu'il n'y a pas d'issue positive de la rivalité Ésaü-Jacob. Alors, je vous l'indiquais un peu à l'avance et nous retrouvons ça par la suite. Si vous avez déjà lu les textes, on n'a pas encore dans le cours suffisamment d'éléments pour organiser cette analyse, mais je vous dirai l'essentiel. C'est qu'il y a une querelle d'identité entre Ésaü et Jacob. Alors qu'entre Yitzhak et Ishmaël, il n'y a pas une querelle d'identité, il y a une querelle d'héritage. Vous vous rappelez de cela? Par conséquent, si l'enjeu entre Ésaü et Jacob, c'est qui est Israël, ça peut être qu'un des deux. C'est clair? À partir du moment où l'histoire a dévoilé que c'est Jacob qui devient Israël, pour que Ésaü devienne Israël, il faut qu'il disparaisse comme Ésaü. Donc l'issue de la querelle entre Ésaü et Jacob, c'est la disparition d'Ésaü. Ça va jusque-là? Alors on va le voir dans un verset avec Rashi aussi. Oui, la disparition d'Ésaü. Je vais prendre les choses avec un autre vocabulaire. On apprend du premier récit qu'on vient d'étudier que la notion d'Ishmaël kacher est possible. Ishmaël tzadik, ça existe. Je veux dire qu'il suffit qu'Ishmaël devienne tzadik pour qu'il soit Ishmaël tzadik. Il n'a pas besoin de devenir Israël. C'est clair? Et il y a deux grandes étapes dans l'histoire d'Ishmaël, dans la recherche de cette authenticité en tant que fils d'Abraham. Vous vous rappelez dans la discussion des rabbins sur le rire? Rabbi Shimon Bar Yochai qui disait « Dans la maison de son père, il n'est pas comme ça. » Vous vous rappelez de cela? Dans la maison de son père, il est tzadik. C'est-à-dire, retenez bien cela, il n'est pas nécessaire qu'Ishmaël devienne Israël pour être tzadik. Il peut être tzadik en tant qu'Ishmaël. Il y a deux grandes étapes. D'abord, la répudiation de l'idolâtrie du meurtre et de la débauche. Vous vous rappelez de ce qu'il y avait dans ce rire? Et ça, c'est l'islam, en principe. Et deuxièmement, la réconciliation avec Yitzhak. La première étape est censée avoir été atteinte par l'islam. La descendance d'Abraham par Ishmaël, et encore, c'est mal dit, parce que, je ne sais pas comment vous dire cela, la descendance c'est par la mère. Okay. Mais finalement, la descendance d'Ishmaël s'est rattachée au lieu d'Abraham par l'islam. Mais il lui reste la contestation avec Yitzhak. Cette deuxième étape, nous sommes encore en train de la vivre. Donc une fois ces deux clauses réalisées, encore une fois, il n'est pas nécessaire qu'Ishmaël devienne Israël pour être tzadik. Il peut être tzadik comme Ishmaël. Alors qu'un Esav kacher, ça n'existe pas, parce que c'est ça Israël. Et qu'il ne peut pas y avoir deux Israël, tout simplement. C'est clair? C'est plus clair? Alors, pas encore?
Dans la
Ah, ça, je t'en ai rien dit. Bon, on en parlera tout à l'heure, mais on ne fait pas du prophétisme futuriste.
Non, mais disparition, ça veut dire quelque chose, parce que ça veut dire
disparition. Oui, je comprends la question. Rassure-toi, on ne va pas les massacrer. Et là, et prenez un texte, vous allez le voir dans Rush. Je vais prendre le texte à la fin de ton doute. Voilà, vous allez prendre le verset 5 du chapitre 28. Chapitre 28, verset 5. Alors, là, dans le moment du récit où nous nous trouvons, on apprend, entre-temps, j'espère que vous avez lu au moins les textes, que Ésaü a été disqualifié quant aux bénédictions qu'il devait recevoir, et par le fait qu'il avait pris pour femme des femmes de Canaan. Par conséquent, les toiles d'autres ne peuvent plus passer par lui. On reverra ça beaucoup plus en détail. Et Rivka intervient et demande que Isaac envoie Jacob dans le pays d'Abraham pour y trouver une femme, pour éviter que Jacob tombe dans le même piège. Alors, un des versets qui nous raconte cet épisode, c'est ce verset que nous allons lire, « Vaishlach Yitzhak et Yaakov » et Yitzhak envoya Jacob, « Vayeler Padena Aram » Et il alla à Padan Aram, et Laban ben Betuel Arami, chez Laban, fils de Betuel l'Araméen, la famille originaire d'Abraham, Achi Rivka, ce Laban est le frère de Rivka, et Miakov et Esav, mère de Jacob et Esaü. Vous suivez? Bon. Alors regardez ce que dit Rashi sur l'expression mère de Jacob et Esaü. D'une façon générale, on a besoin d'un commentaire. Pourquoi? Parce que tous ces données d'information, on les a déjà. Que Laban est le fils de Betuel, qu'il est le frère de Rivka, qu'il est araméen, et que Rivka est la mère de Jacob et d'Ésaü, ça on le sait déjà. Okay. Par conséquent, le Midrash doit nous dire pourquoi c'est répété ici, dans la forme où laquelle c'est répété, pour nous apprendre quoi de plus. Et Rashi intervient et dit, regardez bien dans Rashi, verset 5, « Em Yaakov et Esav », vous avez le Rashi sous les yeux? Qu'est-ce que dit Rashi? Oui. Allez, lis plus fort et traduit. « Eni Yodéa ». Ma melamdenu. Traduit, Eni Odea. Je ne sais pas. Eni, ici, c'est comme Eneni. Eneni Odea. Je ne sais pas. Ma melamdenu, ce qui vient nous apprendre. C'est un Rashi très étrange. On a l'habitude d'expliquer ce Rashi. Il y en a d'autres comme ça, même quand il commente la Gemara, à un certain moment, il dit ça, je ne sais pas ce que ça vient nous apprendre. Et. En faisant allusion à la modestie de Rashi, c'est une leçon pour elle-même. Quand on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas. C'est bien clair. Seulement, ce n'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des quantités de choses que Rashi ne commente pas. Il se tait. Alors, si là, il n'avait rien à dire, eh bien, il n'aurait rien dit. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais essayer de vous donner une image. Je ne sais pas vous montrer ça. Je vais vous démontrer qu'ici, il n'y a rien. Voilà comment je vais le démontrer. Je mets quelque chose et je l'enlève. Vous voyez bien qu'il n'y avait rien. Mais c'est pour vous faire penser à ça. Vous avez compris? Ça veut dire, Rashi dit, je ne peux pas vous dire ce que j'ai à dire là-dessus, mais cherchez jusqu'à ce que vous trouvez. Vous avez compris que ça veut dire autre chose? C'est clair? Bon. Normalement, qu'est-ce qu'aurait dû enseigner Rashi ici et qu'il ne peut pas enseigner? D'après le Rashi précédent sur Isaac et Ishmael. Regardez bien le verset. Mère de Jacob et Ésaü. Qu'est-ce qui vous frappe? Vous rappelez, elle enterre Isaac et Ishmaël, mère de Jacob et Ésaü. Ah, c'est-à-dire, ici, il y a Jacob avant Ésaü. C'est clair? Alors, ça voudrait dire que peut-être, en fin de compte, Ésaü va reconnaître la préexistence de Jacob, la préexistence de Jacob. Or, comme c'est pas ça, que c'est pas possible, c'est clair? Et alors, pourquoi il ne le dit pas comme ça? Eh bien, ça, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Il faut tout simplement se rappeler, et là encore, il faut faire un effort d'imagination historique, si j'ose dire, l'état dans lequel se trouvaient les communautés et leurs rabbins dans les civilisations qu'ils ont traversées, et en particulier au temps de Rashi, dans ce fameux Moyen-Âge européen. Imaginez Rashi, qui était étudié par les commentateurs chrétiens. Il y a énormément d'exégèses chrétiens qui citent Rashi et qui s'en servent. Et à l'époque de l'école de Rashi, il y avait d'ailleurs des échanges entre les abbayes des chrétiens et l'école de Rashi. Et d'ailleurs, c'était une élite intellectuelle de France à cette époque, je veux dire, Rashi et ses élèves, au point que les rois de France avaient l'habitude d'anoblir un certain nombre d'élèves de Rashi par promotion. Vous avez, vous avez appris des gens bibliographiques, qu'est-ce que c'est que l'école des Tosafistes, les Tosfotes? Oui. Eh bien, énormément de Tosafistes étaient des nobles. Le sire de Coucy, le sire de Chinon, je ne sais pas si je veux. Je ne sais pas s'il y a un sire de Villejuif, enfin, ça aurait pu être. Et alors, Rashi ne peut pas dire en clair, en plein milieu de la société chrétienne triomphaliste, ce verset signifie la fin des œufs. Vous comprenez le problème? Il ne peut pas le dire. Alors il dit, ici, je ne peux pas vous expliquer ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça vient nous apprendre. Ça veut dire que ça vient nous apprendre quelque chose, cherche. C'est clair? Bon. Alors regardez bien le texte. Mère de Rebecca, Eslicha, frère de Rebecca, Achi Rivka, Em Yaakov, Vesa. Que Rebecca est appelée la mère de Jacob et d'Ésaü. Ça, c'est le pshat apparent. Et si vous lisez avec les Ta'amim, vous avez déjà appris ce que c'est que les Ta'amim? Oui, non? Bon, oui? Un peu au moins? Je vais vous mettre ça. Vous savez que dans le Sefer Torah, il n'y a que les lettres. Il n'y a aucun signe de ponctuation. Et par conséquent, c'est par tradition orale que nous savons comment grouper les lettres en mots, les mots en phrases, et accentuer de telle sorte de savoir s'il y a une affirmation, une question, comment les mots se groupent. C'est clair. Vous comprenez de quoi je veux parler? Bon. Alors, ce sont les taramim, les accents, qui nous donnent le sens de la phrase. Voilà les trois mots. Em, Yaakov, et Esa. Alors vous avez comme accent, regardez bien sur le texte, ce signe et celui-là, ça fait une unité de lecture, ça on appelle un accent disjonctif qui disjoint le mot de la suite. L'unité de lecture est mère de Jacob et Esaü Stokios. Oui. Tandis que si nous avions d'autres accents, celui-là, alors ce serait relié, ça voudrait dire mère de Jacob et d'Esaü. Mais là ça veut dire mère de Jacob et Esaü c'est Esaü. Bon, vous verrez d'ailleurs qu'il y a aussi un contexte où on voit que Jacob et Esaü ont enterré Yitzhak. Vous trouverez vous-même le verset. Alors voilà, le raisonnement est très simple. Normalement, dans sa propre logique de commentaire, Rashi aurait dû dire là nous avons un indice qu'Esav fait tshuva, mais il sait que c'est pas possible, que ça n'existe pas un Esav tzadik comme un Ishmael tzadik. Alors il nous dit, je ne sais pas ce que ça veut dire, pour nous indiquer, fais attention, c'est simple à comprendre, mais je ne peux pas le dire. Vous avez compris le problème. Alors ça veut dire quoi? Esav s'est prétendu être Israël. S'il fait tshuva, il reconnaît qu'il n'est pas Israël. Il reconnaît que Jacob est Israël. Ça veut dire qu'il disparaît comme tel. Il devient Israël à la manière de Jacob. Ça ne veut pas dire que les personnes de la descendance d'Esav et ce qu'elles ont représenté dans l'histoire vont disparaître, ça veut dire que leur identification de disparaître. C'est annoncé d'ailleurs dans les prophètes. Je vois que j'avais une référence à vous donner plus haut sur le mot de Tolado, je vous la donne tout de suite, avant que je vous dise. Voilà, c'est, vous l'avez au verset 18 du chapitre 4 de Ruth. Le mot de Toladot Malé. Bien, alors avec ce point-là, nous en avons terminé pour l'histoire de la rivalité entre Ishmaël et Yitzhak. Tout ce que nous savons, c'est que depuis l'origine, cette lignée qui a pour fondateur Ishmaël va avoir son histoire propre, telle qu'elle se développe, mais par rapport à Israël, Il s'agit de l'histoire d'une contestation au sujet de l'héritage de la terre et qui prendra fin le jour où Ishmaël reconnaîtra que c'est Yitzhak qui est l'héritier de la promesse de la terre. Je veux dire, un des arguments qui a été souvent utilisé par les rabbins contemporains devant tous les problèmes que nous avons avec cette contestation sur la terre, c'est que finalement, aucun pays arabe, comme on peut dire aujourd'hui, mais disons, aucun pays de la civilisation d'Ishmaël n'a jamais reconnu, n'a jamais considéré Jérusalem comme sa capitale. Jérusalem est considérée comme un lieu saint par l'islam, mais jamais, même pas la Jordanie, depuis 48 et jusqu'à 67, alors qu'elle occupait les territoires en question, n'a considéré Jérusalem comme sa capitale. Il y a ici une indication importante. Donc, alors comment ça va se passer? Personne n'en sait rien. Mais voilà le plan, le schéma que la Torah nous met en place. Et c'est extrêmement frappant de voir que dans les données de l'histoire concrète, ça se met en place de cette manière-là. Un petit point d'histoire contemporaine, c'était un gouvernement du Maharar qui a créé Kiryat Arba. Et je ne sais pas comment vous dire ça. Pas du tout, parce qu'ils ont lu ça dans Rashi, vous comprenez. Et puis, on pourrait se demander, mais pourquoi ils n'ont pas créé cette ville-là à côté de Jéricho? Pourquoi pas à côté de Shrem? Pourquoi pas ailleurs? Pourquoi Dafka à côté de Hebron? Donc, c'est qu'il y a une providence qui dirige ces événements. Il n'en reste pas moins que c'est vraiment à Hebron, si un jour ce dialogue se dénoue, parce qu'il est noué...